Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On l'a retrouvé assis sur une baleine en train de bouffer les fils de son caleçon. On dit qu'il était plus doué pour faire la guerre que pour faire l'amour. Peut-être. Toujours est-il que c'est sur son cheval que Bonaparte a forgé sa gloire.
Archétype du mal sur les champs de bataille, Napoléon Bonaparte incarne une virilité exacerbée. Ses exploits, son ardeur et sa bravoure sont affichés comme des valeurs cardinales qui ont fixé pour longtemps ce que devait être un homme, un vrai.
Vous avez à la journée d'Austerlitz décoré vos aigles d'une gloire immortelle. Mon peuple vous reverra avec joie. Et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde. Voilà un brave.
Alors, avec le genre masculin en bandoulière, quels ont été les rapports de Bonaparte au genre féminin ?
Complexe, ambigu.
Napoléon fut à la fois amoureux transi de Joséphine et craintif face à la liberté féminine incarnée par Madame de Staël. Partisan d'un retour à l'ordre moral, Napoléon a cadenassé la vie des femmes dans la sphère domestique. Mais était-ce une rupture ou une continuité ?
La Révolution fut profondément misogyne.
Napoléon a donc hérité d'une situation où la femme était exclue de la sphère politique et sociale. Était-il plus misogyne que les autres ? La véritable question réside sans doute dans sa définition du masculin.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série en 9 épisodes sur les traces de l'empereur.
Chapitre 3. L'homme puissant ou la virilité à cheval.
Ce troisième épisode commence au printemps 1795 à Paris, où le jeune général Bonaparte s'ennuie.
Et le voilà dans sa petite chambre, à l'hôtel des patriotes hollandais.
Il a 25 ans et il est à l'affût des opportunités. Mais à vrai dire, il tire le diable par la queue.
Enfin,
le général Bonaparte,
c'est moi.
Il fallait que cette lettre soit remise en main propre.
Signé Barras, qui l'invitait à se rendre chez lui sans faute au reçu de ce mot.
Barras, président de la Convention thermidorienne, connaît Bonaparte depuis le siège de Toulon, 2 ans plus tôt.
Adieu, adieu les Anglais !
C'est un homme qui compte à Paris. Il dirige la France et organise chez lui des fêtes somptueuses où les femmes règnent sur cette société mondaine. La mode ayant libéré leur corps, elle suscite une vraie fascination chez les hommes.
Je vous ramène à Paris après le dîner ?
C'est correct, j'espère.
Non.
On les appelait alors les merveilleuses. Mais quelle était la place de ces femmes à Paris en 1795 ?
Très importante. Bien sûr, le 18e siècle avait mis les femmes au centre de la société.
Patrice Guénifet est historien.
Il y avait les salonnières, mais pas seulement, les femmes jouaient un grand rôle dans la société aristocratique, bien sûr, et dans la société bourgeoise qui se mêlait plus ou moins à l'aristocratie. La Révolution avait relégué les femmes dans la sphère privée au nom d'une conception antique de la citoyenneté, le citoyen soldat, le citoyen père de famille, etc. Et la terreur avait poussé cette dynamique à son paroxysme. Et donc la fin de la terreur déclenche une sorte de libération, c'est-à-dire la société renaît avec ses bals, ses cafés, ses soirées, ses mondanités, et tout ce personnel révolutionnaire mêlé de militaires, de financiers, de quelques nobles qui refont surface, va se mêler et déterminer l'une des périodes sans doute les plus mondaines de notre histoire. Tout le monde connaît les merveilleuses, les incroyables, etc. Et c'est dans ce monde-là que le jeune Bonaparte, qui à ce moment-là n'a pas de poste. Il est à Paris parce qu'il essaye de se faire réintégrer dans l'armée, puisqu'il en avait été chassé pour robespierrisme. Et donc il va se mêler à ce monde, introduit là par son mentor, qui est Barras. Et effectivement, il va rencontrer toutes les merveilleuses de l'époque, qui sont les épouses ou les amies des révolutionnaires en vue.
Ah oui, le seul défaut que j'ai, figurez-vous, je m'en guéris de que je chante.
Oh, alors, venez vite chanter. Laissez passer les incroyables.
Mais c'est merveilleux. Chut.
Arrêtez-vous tous de parler. Il faut orchestre, taisez-vous. Car je voudrais qu'on applaudisse, qu'on acclame le vainqueur de Toulon, ce général de 26 ans, qui n'est autre que le général Bonaparte.
Madame Tallien voudrait vous connaître.
Et je voudrais vous dire toute mon admiration.
Madame Adler voudrait faire ses compliments.
Il faut lui offrir une taille de cheveux.
Quel regard porte le jeune Bonaparte sur ces mondaines, sur ces merveilleuses?
Vous savez, c'est un provincial, là. Ô combien, puisqu'il est né en Corse, c'est loin de... À l'époque, c'est très loin, la Corse, plus encore qu'aujourd'hui. Et donc, il est fasciné par ce monde-là. Et toute sa vie, il aura une forme de comment dire, d'admiration de parvenu pour les grandeurs sociales. Donc, il est fasciné par ce monde et par, surtout, les femmes qui règnent sur cette société. Et c'est là qu'il va voir pour la première fois Joséphine, au point d'en oublier l'idylle qu'il conduit avec une jeune fille de Marseille.
Hein, Désirée Clary, absolument.
Oui, tout à fait.
Oui, que chacun lève son verre à la santé du général Bonaparte et de notre Joséphine bien-aimée. Qu'ils soient aussi heureux mariés qu'ils le sont célibataires.
Désirée.
N'oubliez pas que je vous aime.
Mademoiselle, qu'y a-t-il?
Oh mon Dieu!
Revenons un instant plus près de nous.
Alors peut-être pourrions-nous commencer tout de suite par cette question à André Castelot. En fait, qui était Joséphine?
Voici aujourd'hui madame, en octobre 1972.
Eh bien, on pourrait peut-être parler d'abord de son physique, oui, si vous voulez. Était-elle belle? Elle n'avait pas le type grec, certainement, mais elle avait un charme infini. Nous dirions aujourd'hui qu'elle était sexy ou qu'elle avait du sex appeal, ce qui est un mot abominable appliqué à une dame qui vivait à la fin du XVIIIe siècle. Elle avait du charme, elle avait un sourire charmant, qui petit à petit d'ailleurs s'est transformé en un sourire un peu crispé parce qu'elle avait des dents affreuses et qu'elle essayait de les cacher. Mais elle avait des yeux ravissants. Elle avait des yeux couleur café brûlé. On la croyait brune, enfin nous la croyons brune à notre époque, ce qui est une grosse erreur. On croit qu'elle était brune parce que beaucoup de gens confondent en disant qu'elle est créole. Mm-hmm. Par conséquent, elle a peut-être du sang noir dans les veines, ce qui est absolument faux. Ses parents étaient un peu plus blancs. Donc, elle était blonde châtain avec un teint de blonde et non pas un teint de brune.
N'oubliez jamais de dire que vous êtes créole. Paris adore ça. Soyez donc exotique.
Si j'étais l'oiseau bleu, je partirais là-bas. Je
C'est une veuve, d'abord. C'est une veuve qui était d'ailleurs divorcée de fait de son mari depuis très longtemps. Et elle est devenue une sorte de vedette du petit monde thermidorien d'après la Terreur, parce qu'elle a été emprisonnée sous la Terreur. Son mari a été guillotiné, ce qui lui donne un prestige social supplémentaire.
On dit, Patrice Guignet, oui, que son mari aurait inspiré Valmont des lésions dangereuses. Vous confirmez ça ou pas?
Oui, on le dit.
Donc libertin, grand libertin.
Grand libertin, mais en même temps grand jaloux. Et après la Terreur, donc, elle retrouve la liberté et elle s'amourache, elle est à l'époque la maîtresse du général Hoche, avant de tomber dans les bras de Barras. C'est une femme qui est toujours à la recherche d'un protecteur puissant, parce qu'elle a des dettes. Elle a deux grands enfants à charge.
C'est aussi une survie pour elle. Hein,
c'est une survie. Mm-hmm. Elle arrive à un âge, elle a passé 30 ans, où pour les femmes à l'époque, ça devient difficile d'abord de se remarier. Et puis, elle a une très mauvaise réputation sur le plan des mœurs. Donc, elle a besoin d'être protégée contre les créanciers, contre les détracteurs, contre les rumeurs. Et elle cherche toujours des gens puissants.
Allez, monsieur, mariez-nous vite. Vous voyez bien que j'attends.
Napoléon Buonaparte, fils de Charles Buonaparte rentier et de Laetitia Ramolino. Consentez-vous à prendre pour épouse Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, née à la Martinique dans les îles du Vent?
Oui.
Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, consentez-vous à prendre pour époux Napoléon Buonaparte? Je n'ai pas entendu la réponse.
Elle a dit oui.
Et donc, ils vont finir par se marier l'année suivante, en 1796.
Eh bien, général, vous pouvez embrasser votre femme.
Et là, on est assez frappé parce qu'on a accès à la correspondance de Bonaparte à Joséphine. Mmh. Il y a une très grande sensibilité chez Bonaparte dans ses lettres, très éloignée finalement de l'image du soldat rustre ou brutal ou froid ou austère. Il y a une grande tendresse même dans la littérature de Bonaparte à l'égard de Joséphine.
Vous pouvez même dire de passion.
Oui, bah allons-y.
Parce qu'au fond, elle sera le seul et unique amour de sa vie.
Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du Rhône, c'est pour te revoir plus vite. Si au milieu de la nuit je me lève pour travailler, c'est que cela peut avancer de quelques jours l'arrivée de ma douce amie.
Elle restera le seul amour de sa vie. Et au moment de partir à Sainte-Hélène, c'est dans la chambre où elle est morte qu'il demandera à pouvoir se recueillir. Et lorsqu'il la rencontre, il a une expérience des femmes tout à fait limitée en réalité. Et donc pour lui, elle est à la fois la femme avec une majuscule, selon l'image qu'il en a, une femme riche, une femme célèbre.
Expérimentée.
Une aristocrate.
Joséphine. La nature m'a fait l'âme forte et décidée. Elle t'a bâti de dentelles et de gaz.
Voilà. Elle a toutes sortes de mérites à ses yeux qui font que ça aurait pu être une liaison, comme il dira, une affaire de canapé, mais pas du tout. Ça devient une passion dévorante dans les premiers mois. D'autant plus que très vite, il se rend compte que sa femme, tout juste mariée, le trompe.
Que se passe-t-il ?
Elle n'est pas rentrée.
Et lui, qui a un tempérament méditerranéen, va la poursuivre de sa jalousie.
Il la reprend à chaque fois. Il l'aime.
S'il le sait qu'elle le trompe.
Il le sait, mais il ne le croit pas.
Est-ce que vous pensez que cet adultère de Joséphine précoce dans le mariage a pu changer la vision des femmes chez Bonaparte? Est-ce que tout d'un coup, cette double vie a pu lui faire avoir une sorte de crainte de la gente féminine?
Non. Non, je pense que ça n'a rien changé. Et puis, bon, sur le coup, bien sûr, il en a été très blessé dans son orgueil masculin de savoir que 15 jours après le mariage, elle avait déjà pris un officier. Et en plus, qu'elle lui a amené, puisqu'elle est venue le rejoindre en Italie, avec cet officier accroché à ses basques. Mais ça n'a pas changé fondamentalement sa vision de la femme, d'autant plus que sur ce chapitre, il a toujours été plutôt tolérant et ouvert. Alors vous savez, il a un côté héros antique, comme s'il sortait du monde d'Alexandre ou de César. Et puis en même temps, il a un côté bourgeois. Et il dira avec fierté, d'ailleurs, avec sa femme, il a toujours fait lit commun, ce qui à l'époque n'était pas si courant. Ils se chamaillaient, ils avaient des querelles d'époux pour des questions d'argent, pour des questions aussi amoureuses, etc., etc. Mais non, je ne crois pas que ça ait changé sa vision des femmes. Ensuite, ça sera l'inverse. Hein. C'est lui qui va la tromper et elle qui sera jalouse.
Ainsi, j'ai su votre aventure interminable avec Madame Duchâtel. Votre liaison fort scandaleuse au Caire avec Madame Fourès, qui s'habillait souvent en homme. Et j'ignorais votre aventure avec la Grassini, cette chanteuse italienne. Vous parlerai-je encore de ma très grande amie Carlotta Brantano, que vous traitiez d'Anka, qui ne quittait jamais ni ses gants ni ses bas parce que vous lui aviez dit qu'elle avait de vilains abattis.
Je pense qu'il avait beaucoup de maîtresses. C'était un besoin sans doute, mais pas une passion. Il était comme beaucoup d'hommes de pouvoir. C'est-à-dire ce qui vraiment le faisait monter au rideau, si on peut dire vulgairement, c'était le pouvoir, l'exercice du pouvoir, le fait de contrôler les choses, de contrôler les gens, et pas tellement les femmes. Et probablement les femmes, c'était dans sa vie comme la musique, ce qui lui permettait d'être un peu lui-même, un petit moment. Et on sait qu'il était, il avait l'oreille musicale, parce que la musique, ça permet d'exprimer ses émotions sans parole. Et probablement ces rencontres discrètes, d'autant plus discrètes que Joséphine surveillait, lui permettaient la même chose.
Connaissez-vous Joseph Bologne, le chevalier de Saint-Georges? Compositeur oublié, c'est lui qui a composé l'extrait que nous venons d'entendre. Né en Guadeloupe, révolutionnaire convaincu et grande figure de l'abolition de l'esclavage, il fut surnommé le Mozart noir, sobriquet réducteur et contraire à l'universalité de la musique.
Tout ce que fait ce chevalier de Saint-Georges est si extraordinaire!
Ses sonates et cantates, consacrées aux choses de l'amour, furent très prisés dans les salons mondains de la société thermidorienne. Ce qu'on appelle société thermidorienne, c'est la France entre 1795 et 1799. Une époque assez inouïe pour la condition des femmes.
En même temps, on évite la prostitution, on veut la limiter, et en même temps, on permet aux femmes de divorcer quand même, hein, on les laisse libres.
Jean-Clément Martin est historien.
À partir de 1795, en même temps, pour continuer le propos, on va rétablir progressivement l'ordre moral, c'est-à-dire qu'on va limiter le divorce, on va limiter le rôle des femmes, et en même temps, on les laisse librement participer à la prostitution mondaine des merveilleuses. On est dans ce jeu-là. Et ce qui va se produire dans les années 97-98, c'est la création d'un petit milieu. Il y a le mari, il y a la dame, il y a l'amant, et tout le monde vit en bonne entente. Et il y a là une espèce de liberté accordée aux femmes de la très haute société, il faut bien le dire, mais une véritable liberté qui est une liberté de mœurs et qui est une liberté aussi intellectuelle. Et ça, c'est un moment assez inouï qui va durer, bon, c'est difficile à dire, jusqu'en 1802-1803, quand Bonaparte devient Napoléon, s'allie vraiment au courant catholique français, essaie de limiter le divorce tout en le conservant, parce qu'il se doute qu'il va en avoir besoin, et puis surtout de rétablir l'autorité paternelle et l'union familiale. Donc là, il y a quelque chose qui se met en place à ce moment-là, contre le libéralisme des amants des dames, et on va revenir vers une espèce de patriarcat. Moi, ce qui me paraît assez hallucinant, c'est que Napoléon, qui avait quand même autre chose à faire, va réglementer même la dimension des collerettes. Selon qu'on est une duchesse, une princesse, ou une dame de l'aristocratie, mais moindre, eh bien, les rubans et les collerettes n'auront pas la même dimension. Donc, quand on en est là, la liberté des femmes est quand même mal en point.
Passons maintenant aux opposantes à Napoléon.
Arme à la bretelle. Rien à craindre, mes petits.
La fin d'un monde par M. Édouard Herriot.
Édouard Herriot fut maire de Lyon et président du Conseil à trois reprises, figure politique incontournable de la Troisième République.
On a beaucoup raillé Juliette Régamier. Ayant passé plusieurs années de ma jeunesse à rechercher ses traces, ce qui m'a valu les quolibets des sceaux, je me suis attaché à elle comme à un symbole de ce qu'on appelle ou de ce que l'on appelait jadis la femme française. Regardons-la de près et tâchons de relever ses traits essentiels.
Ah, c'était sans doute la plus jolie femme de son temps, très mondaine elle aussi, mariée avec un barbon banquier, qui avait donc le mérite d'être riche. On dit que le mariage n'a jamais été consommé, et de toute façon, Madame Récamier n'a jamais rien cédé à aucun de ses soupirants. Et bien sûr, elle en avait plein, le Chateaubriand, elle a eu Fontane, elle a eu Joubert, bref, tous les gens célèbres de l'époque sont tombés amoureux d'elle et ont essayé de faire sa conquête. Alors, soit ça ne l'intéressait pas, soit ses goûts n'étaient pas dans cette direction-là. Alors, on dit qu'elle a eu une liaison avec Madame de Staël.
Ah. Madame de Staël.
Ce qui n'est pas impossible, mais en tout cas, elle était voilà, l'une des grandes mondaines du régime.
Il n'y a rien de plus assommant qu'une femme trop intelligente.
Madame Récamier n'était pas seulement une jolie femme, elle avait une tête aussi. Comme Madame de Staël, elle était très proche de Madame de Staël, ce qui explique la méfiance de Napoléon à son égard.
Madame Récamier a eu cette vertu qui manque à beaucoup d'hommes, le courage. En un temps où l'opposition au gouvernement était sévèrement punie, Juliette refuse, comme nous dirions aujourd'hui, de collaborer. Elle s'attache à la femme la plus illustre et la plus énergique de l'époque, à Madame de Staël. Napoléon déclare dans le salon de l'impératrice Joséphine qu'il regardera comme son ennemi personnel tout étranger qui fréquentera les salons de Madame Récamier.
Madame Récamier, dont on dit que le mariage n'a jamais été consommé, qu'elle pourrait avoir eu des amours homosexuels, me fait penser à un autre personnage, alors encore moins connu, mais que j'aime bien, même si on ne sait pas trop si elle a vraiment existé, qui est cette Félicité de Choiselmeuse, qui est sans doute la première auteure ou autrice libertine de cette période-là. Et cette Choiselmeuse, on lui attribue, parmi beaucoup de livres, deux livres. Et un notamment qui m'amuse bien, qui s'appelle « Julie » ou « Comment j'ai sauvé ma rose ». Ça a été publié en 1807. Et d'une certaine façon, je crois que ça pourrait s'appliquer parfaitement à Madame Récamier, parce que cette Julie dont Choiselmeuse raconte la vie libertine a beaucoup d'amants, mais il n'y a jamais de consommation. Et finalement, la rose de Julie est conservée. Et à 30 ans, âge fatidique pour les femmes de l'époque, eh bien, elle abandonne les hommes pour avoir une histoire d'amour avec une femme. Alors, est-ce que c'est inspiré de Madame Récamier? J'en sais rien, mais ce contrepoint-là aussi permet d'avoir cet espace de liberté que les femmes ont prise contre les hommes en dépit. Pis des hommes à côté des hommes, et peut-être en se moquant des hommes, parce qu'après tout, Joséphine a gardé sa vie à elle. Après tout, Marie-Louise, la deuxième épouse de Napoléon, a eu une vie très libre après la déchéance de l'empereur. Et en quelque sorte, tout ça permet de compenser tout ce qu'on peut dire de la rigidité et de la virilité de l'Empire et des hommes du moment.
Cette Madame Choiselmeuse dont vous nous parlez, Jean-Clément Martin, elle a aussi écrit un autre livre qui s'intitule « Entre chien et loup », publié d'abord Hambourg en 1807, puis à Bruxelles en 1809. Quelle est l'intrigue de ce livre et quelle est son originalité, Jean-Clément Martin ?
Oh, c'est très simple. C'est le Décaméron vu par les femmes. Les hommes sont pris par la chasse, ils ont plein de choses à faire, bien sûr, et les femmes se retrouvent entre elles et se racontent entre elles, très librement, la façon dont elles ont eu des amants en se moquant de leur mari. Le roman, en définitive, est un roman éducatif, puisque ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'elle est écoutée par la très jeune fille de la maîtresse de maison, et que c'est tout simplement pour lui dire comment faire pour jouir des hommes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et ne pas être prisonnier.
Il y avait plus d'une heure que j'étais endormi quand j'entendis un léger bruit dans ma chambre. Dans la pénombre, je reconnus le major. « Au nom du ciel, lui dis-je, que venez-vous faire à cette heure ?»« Charmant enfant !» Le premier devoir d'un militaire et d'un Français est de protéger la beauté. Le second est de l'adorer. Car à la guerre, si on tue des hommes, on en fait d'autres.
Ah, monsieur, lui dis-je, toutes les apparences sont contre moi, mais quand vous saurez par quelles circonstances...
Ah non, non, dit le major, je ne veux pas savoir les circonstances. Mon petit hussard, vous n'avez pas trop l'air d'un ange exterminateur, mais quand vous aurez vu le feu...
En disant cela, le major apportait à son costume des changements qui m'éclairèrent tout de suite sur ses projets.
Donc on est entre chien et loup, on est dans ce moment incertain où les catégories sont ombrées dans le brouillard, et là les femmes ont la possibilité de naviguer sans aucun problème, et ça se termine quand les hommes, rentrant de la chasse, reviennent avec les bois du cerf qu'ils ont abattu. Là, les hommes sont totalement bernés.
Et à la fin du roman, je crois que le maître de maison dit « en voilà des bois ». C'est assez cocasse, voilà, parce qu'évidemment, oui, ils sont tous cocus. Voilà. Donc, en voilà des bois. Les bois, parlant des bois du cerf, évidemment, abattus par les chasseurs. Absolument. En voilà des bois, absolument, en voilà des cocus.
Et c'est un roman qui avait gêné. Il a été réédité dans les années 1820-1830. Et il gênait encore les hommes qui voulaient le censurer.
L'univers de Napoléon est un monde militaire où règne l'ordre, en opposition au monde des idées et de la pensée, dont il s'est toujours méfié, et plus encore quand il fut incarné par des femmes.
Et en règle générale, il se méfiait des salons, et il se méfiait des femmes en politique. Et c'est là où on peut dire qu'en effet, il y avait une certaine misogynie chez lui. Parce qu'il n'oubliait pas le rôle que les femmes avaient joué au début de la Révolution, lorsqu'elles avaient soutenu les velléités libérales de l'aristocratie. Il se rappelait en particulier que Madame de Staël, qui changeait fréquemment d'amant, à chaque fois qu'elle prenait un nouvel amant, son truc, c'était de le pousser au pouvoir. Et pour que son amant arrive au pouvoir, elle était prête absolument à tout. Et ça, Bonaparte, pour qui le fait premier, la valeur première, c'était l'ordre et la stabilité du régime, n'avait pas oublié ça. Et donc, il les poursuivait de son hostilité, comme il poursuivait de son hostilité les journalistes. Parce que pour lui, c'était la même engeance. C'est-à-dire des gens qui avaient fait la révolution, au moins au début, qui souvent l'avaient payé de leur vie après, et qui menaçaient la stabilité du pouvoir presque par nature, par ambition. Au fond, on a toujours intérêt à s'entendre avec les intellectuels de son temps. Et ça, c'est quelque chose que Napoléon ne savait pas faire, parce qu'il avait du mal à traiter toute personne, quelle qu'elle soit, homme ou femme, comme un égal, et donc à discuter de pair à pair. Et par exemple, il a pas su se concilier Chateaubriand d'un côté, Madame de Staël de l'autre. Et Madame de Staël lui a fait une réputation détestable d'ennemi des femmes. Ce qu'il n'était pas, parce qu'il savait aussi être galant. Alors, il ne l'était pas toujours. Il n'avait pas l'éducation aboutie d'un aristocrate d'Ancien Régime qui, même de mauvaise humeur, savait être aimable avec les gens. Mais Madame de Staël lui a fait une réputation d'ennemi de l'intelligence d'un côté et des femmes de l'autre. Alors c'est là où il y a un problème entre lui et la gente féminine, c'est que Madame de Staël ne correspondait pas du tout à son image de la femme. Son image de la femme, c'est Joséphine, qui aime bien porter des belles robes, qui aime les beaux bijoux, qui fait des dettes. Ça, c'est son image de la femme.
Et plutôt la sphère domestique que la sphère politique.
Ou mondaine.
Comédie héroïque de Ferdinand Bruckner.
Il paraît qu'en Allemagne, dans tous les salons, je n'ai fait qu'intriguer contre Napoléon. Étant donné que ses agents secrets avaient l'œil partout et contrôlaient toute la presse, il me restait en effet d'autres possibilités que les salons. J'aurais dit, paraît-il, à M. de Goethe, que cette atmosphère étouffante qui se répand dans toute l'Europe nous vient tout droit des Tuileries. Et M. de Goethe aurait, soi-disant, défendu Napoléon en disant qu'il était le plus grand homme du siècle. Et il paraît que j'aurais ri en entendant cela.
Et tu as ri, en effet.
Ah oui, j'ai ri.
Oui, tu as ri.
Et j'aurais dit, paraît-il, à M. Schiller, que le despotisme français est pire encore que le russe. Et M. Schiller m'aurait rappelé à la raison. Oh, c'est un mensonge. M. Schiller n'a même pas ouvert la bouche. Mais pour ce qui est du despotisme, c'est la pure vérité. Et le philosophe Fichte m'aurait dit en criant que les femmes n'avaient qu'à se taire lorsqu'elles se trouvaient en société d'hommes supérieurs. Et moi, là-dessus, je l'aurais regardé longuement sans dire un mot.
Sans dire un mot?
Oh, c'est un mensonge.
Oh, et quel mensonge.
Je devrais être expulsé à cause de tout ça.
Madame de Staël. Contre-modèle napoléonien. Figure méconnue car écrasée sous le poids de l'Empire, cette femme offrit une autre idée de la France, une vision plus lucide, plus ouverte. Son livre « De l'Allemagne », interdit de publication par Napoléon, jetait les bases d'une diversité européenne contraire à l'uniformité de l'Empire. Mais qui était-elle au juste ?
Quand elle était très jeune, elle était déjà extraordinairement importante et célèbre. C'était quand même la fille du dernier contrôleur général des finances de la monarchie, donc Jacques Necker, et quelqu'un qui, d'emblée, derrière son père et avec son père, et peut-être même en rivalité contre sa mère ou avec son père, entame une carrière intellectuelle et une carrière politique extraordinaire, multipliant les interventions favorables à la Révolution, des interventions de défense culturelle, notamment de la mémoire de Rousseau. Enfin, c'est quelqu'un qui a un poids considérable dès le début de la Révolution. Et quand Bonaparte arrive, ils sont tous les deux en admiration, en rivalité. Et là, il n'y a pas de place pour deux. Elle va être obligée de quitter la France et elle va rentrer dans une opposition directe à l'Empire jusqu'à s'intéresser et faire des livres tout à fait importants sur l'Allemagne contre la France. Et en même temps, c'est une grande romancière, c'est quelqu'un qui a une audience considérable, elle fait partie de ces centaines, et je n'exagère pas, ces 200, 300 romancières intellectuelles, Madame de Genlis, Madame Cottin, qui sont des femmes qui ont publié des centaines de livres qu'on a oubliés aujourd'hui. Madame Cottin, ses livres étaient publiés dans 6 langues, et Madame de Staël fait partie de cette élite-là, qu'on néglige, à mon avis, beaucoup trop. Avec quelque chose aussi, moi, qui m'étonne toujours, hein, parce que quand je dis ça, on a l'impression que c'est la chape de plomb, mais ce qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que un des grands personnages de l'Empire, Cambacérès, est notoirement homosexuel. Il est obligé de s'afficher avec une femme, mais tout le monde sait très bien que ce sont ses neveux, comme on les appelle, qui jouent un grand rôle, qu'il y a un préfet qui est contre-révolutionnaire, qui est fiévé, qui va obtenir une préfecture et qui recevra dans la préfecture avec son ami les notables du coin. Donc on est dans un moment pour lequel il faut malgré tout essayer de bien comprendre, je dirais pas les contradictions, mais je dirais les complexités.
Nous arrivons à quelque chose que tu connais, je crois, Florence.
Oui, c'est le cheval dont j'ai fait la copie.
Et ça représente Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard.
Bonaparte franchissant les Alpes, illustre toile de Jacques-Louis David comme une incarnation de la virilité à cheval, l'homme puissant. Au sommet de la montagne, Napoléon enfourche sa monture cabrée à la robe blanche, détail crucial.
Les chevaux des empereurs étaient toujours blancs pour montrer combien les empereurs étaient puissants. Et déjà là, David a représenté, là il est encore premier consul seulement, Bonaparte n'est pas encore Napoléon, mais pour flatter déjà le futur Napoléon, il le met sur ce cheval blanc et tu vois c'est un geste magnifique. Bonaparte a pour désigner en avant de lui le pic qu'il va franchir, tu vois toute l'armée qui suit, quel emportement hein. Vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'après cette façon magistrale de représenter Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, David soit devenu le peintre officiel de l'Empire.
Bah, c'est une des premières grandes images de propagande que Bonaparte a su inventer. Hein.
Nathalie Petitot est historienne.
Puisque il y a quelque chose d'extrêmement symbolique, parce qu'il met déjà ses pas dans les figures des chevaux du pouvoir, dans les souverains, alors qui ont, comment dire, été plus souvent statufiés que portraiturés sur leurs chevaux. Ces statues équestres, elles sont importantes parce que depuis les premiers traités d'équitation, 15e, 16e siècle surtout, et même surtout depuis le traité d'Antoine de Pluvinel en 1623, destiné à Louis XIII, l'art de monter à cheval, l'art de maîtriser sa monture, c'est aussi l'art de maîtriser les peuples. L'un va avec l'autre, et à l'inverse, un souverain qui n'est pas capable de maîtriser sa monture, c'est un souverain qui n'est pas capable de maîtriser ses peuples. Alors, est-ce qu'il avait cet aspect-là des choses en tête? Très certainement, parce que cet aspect de la culture équestre, pour les élites, il était omniprésent.
On sait, Nathalie Petitot, que ce tableau de David est irréaliste, et parce qu'en vérité, Bonaparte a franchi les Alpes à dos de mulet. Est-ce que représenter Bonaparte sur un mulet, c'était impensable à l'époque, justement?
Alors, en 1800, oui, très certainement, parce que ça n'est pas cette image-là qui aurait été efficace sur le plan de la propagande. Il y a en référence les portraits équestres des souverains qui comptent énormément. Alors qu'en revanche, ben oui, de façon très très concrète, franchir le col du Grand Saint-Bernard à ce moment-là sur un cheval fougueux, ça n'avait absolument aucun sens. Dans la réalité, effectivement, c'était par moments sur un mulet et puis bien souvent à pied, bien évidemment. Et cette représentation-là, elle a été faite plus tardivement, en 1848, par un tableau de Delaroche, à un moment où là, la légende napoléonienne s'est déjà très largement épanouie, et où, à l'inverse, attention, quand on représente Bonaparte sur un mulet en 1848, ça n'est pas du tout la vie lire, c'est au contraire épouser ce qu'est devenu la légende à ce moment-là, alors d'un homme proche du peuple, d'un homme proche de ses soldats, et en même temps, le tableau de Delaroche est aussi empreint de mélancolie romantique et en même temps de réalisme, puisque en effet on remet Bonaparte sur la bonne monture, si je puis dire.
Le tableau de David, cet homme à cheval, cette virilité à cheval, exalte justement une sorte de virilité, une volonté de puissance. On reproche aujourd'hui, Nathalie Petitot, à Bonaparte d'avoir construit un univers politique masculin. Or, c'est une question qui n'a pas de sens, en vérité. Vous nous expliquez pourquoi ?
Bien évidemment, à part une petite poignée de féministes durant la Révolution française, personne ne peut imaginer donner quelque rôle politique que ce soit à une femme. Personne n'imagine à ce moment-là mettre une femme à la Chambre des députés, personne n'imagine encore moins mettre une femme ministre. Napoléon considère que la sphère de la femme, c'est la sphère domestique, mais il n'est pas seul de son cas à penser cela à ce moment-là. C'est faire un anachronisme que de dire Napoléon était absolument hostile aux femmes. Alors bien sûr, il y a Madame de Staël, bien sûr, il y a des femmes qui sont avant-gardistes dans ces idées selon lesquelles il faut bien évidemment établir une égalité parfaite. Mais Bonaparte reste un homme de son temps, donc oui, on exalte la virilité, mais de la même façon, qui songerait à ce moment-là à confier une armée à une femme, hein, alors qu'aujourd'hui, nous avons fort heureusement des femmes dans les plus hauts grades de l'armée, mais il a fallu deux siècles pour en arriver là.
Mais que faisait l'empereur? Il dormait. Il venait de passer 60 heures à cheval et harassé de fatigue. Il était tombé dans les bras que lui tendaient ses grenadiers, puis aussitôt il s'était allongé sur l'herbe et s'était endormi. Pour qu'il ne prît pas froid, ses soldats qu'il aimait avaient dressé autour de lui une pyramide de tambours. Protégé par ceux-ci et gardé par ceux-là, Napoléon dormait avec sa grande armée.
Les Russes et les Prussiens seront couchés sous la terre avec les Parisiens. Il faudra pourtant bien que les civils enfin se mettent en militaire et se déclarent la guerre pour se distraire en brin. Il faudra bien que la guerre un beau matin.
Est-ce que cette virilité exacerbée, oui, est-ce qu'elle a eu des conséquences sur les hommes de la génération suivante, de Jean-Clément Martin?
Oui, il me semble que oui, parce que cette virilité était en définitive en crise. Je crois qu'il faut, le mot n'est pas de moi, d'un historien de la littérature, la crise du plaisir, la crise de la virilité au moment où les hommes cherchent effectivement à s'établir très différent des femmes. C'est le moment où les hommes vont s'habiller en noir, en marron, avec des couleurs sombres, laissant les couleurs vives aux femmes. Ce qui n'était pas le cas sous la monarchie, où les hommes pouvaient s'habiller en rose sans être homosexuels. Il y avait là un jeu de couleurs qui était tout à fait ouvert. Et là, les hommes sont prisonniers d'un rôle, alors qu'ils voient bien, ils sont bien confrontés à toutes ces femmes qui ont joué, elles, des rôles de premier plan en politique, en littérature ou en armée. Je pense, si vous voulez, à partir de 1810-1820, à la confrontation qui devait être terrible entre tous ces hommes qui avaient accompli des tas de choses et puis une très jeune femme, Marie Shelley, la fille d'une révolutionnaire anglaise, Mary Wollstonecraft, qui va écrire Frankenstein.
It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive. It's alive.
C'est-à-dire qu'il y a là une éclosion des talents des femmes qui va s'imposer et qui fait que les hommes des années 1820-1830, ils ont l'impression d'être arrivés vraiment trop tard. Ils n'en pourront plus être de grands soldats, ils ne pourront plus être de grands politiques, ils ne pourront même plus être de grands penseurs, ils sont empêtrés dans des histoires politiques. Et les femmes ont inventé autre chose, et c'est Marie Shelley, et puis c'est la duchesse de Berry, que j'aime beaucoup, qui a une indépendance absolue dans les années 1820, et qui va incarner la contre-révolution romanesque en 1830. Donc il y a quelque chose là qui se passe, il faudra vraiment attendre la fin du 19e siècle pour qu'on prenne un peu attention à ces féministes qu'on a essayé de coincer, de cataloguer, et de marginaliser dans l'élaboration des mentalités du 19e siècle français.
Oui, je trouve que c'est tout de même étonnant, non, pas vous interrompre, mais c'est tout de même étonnant parce que Bonaparte était un misogyne, ça tout le monde le sait.
On ne peut pas dire que Bonaparte ait été un amoureux des femmes
et
féministe,
non,
certainement pas. Misogyne, c'est tout de même beaucoup dire.
Bien, bien.
Vous avez prononcé le mot, Patrice Guénifet, de misogynie. Aujourd'hui, certains de nos auditeurs, en vous écoutant, peuvent effectivement y voir une sorte d'archétype misogyne. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de misogynie à l'égard de Bonaparte ?
Je pense que chez Napoléon, qui vivait dans un milieu de femmes, il ne faut pas oublier que la famille Bonaparte, c'est avant tout des femmes. Le père était notoirement absent, les frères sont pour la plupart des imbéciles. Il n'y a que les filles qui étaient un peu au niveau, et notamment ses sœurs Elisa et Caroline. Alors, il était habitué aux relations avec les femmes à travers ses sœurs. Alors, il est vrai que spontanément, il allait vers Pauline, qui était celle qui avait la tête la moins politique de la tribu.
Alors, c'est fourbe.
Non, il allait vers elle parce que, justement, elle ne prétendait pas l'égaler, elle ne demandait jamais rien, à part qu'on paye ses dettes, mais sinon, elle ne demandait pas du pouvoir, des fonctions. Elle n'était pas comme Elisa, qui lui ressemblait beaucoup. Alors, est-ce que c'est de la misogynie ? Oui, sans doute. Sans doute pas plus importante qu'elle ne l'était à l'époque, où les rôles sociaux des hommes et des femmes étaient très séparés. Donc probablement, c'était une misogynie qui était à l'image de son temps. Et le seul vrai secteur de la société où il n'y avait pas cette misogynie, c'était l'aristocratie. Et précisément, les révolutionnaires en voulaient beaucoup aux nobles à cause de ça aussi, en pensant que les nobles du XVIIIe siècle s'étaient efféminés. Et que l'ancien régime était en particulier tombé, où la société française s'était désintégrée, aussi à cause de ça, à cause d'hommes devenus trop efféminés. Et la Révolution avait été une sorte de réaction virile. La Révolution, c'est un monde de frères. Ce sont des frères qui s'entretuent, mais ce sont des frères. Et alors que l'Ancien Régime, c'est un monde gouverné par les femmes, par l'esprit, par les manières.
Madame de Staël, vous la connaissez ?
Trop.
J'ai reçu une lettre de la Grassini. Elle vous envoie ses meilleurs souvenirs.
On m'avait pourtant dit que vous étiez belle, Madame Récamier.
On m'avait dit que vous étiez polie.
Est-ce que Bonaparte était misogyne, selon vous, ou pas, Jean-Clément Martin ?
Il était comme les autres. Si, je pense que des hommes, au moment de la Révolution, qui ne sont pas misogynes, il y en a très peu. Je pense notamment à un certain Guyomard, mais aussi à Condorcet, qui était vraiment un homme qui portait de l'attention aux femmes. Les autres étaient misogynes, plus ou moins gravement, beaucoup très gravement. Bonaparte l'était sans doute un peu moins que d'autres, mais il était certainement dans la bonne moyenne.
En conclusion, il faut sans doute nuancer l'adjectif misogyne pour Bonaparte, tout simplement pour des raisons d'anachronisme. Napoléon fut l'homme de son temps et à l'époque, les revendications politiques et sociales pour les femmes étaient pour ainsi dire inexistantes. Madame de Staël n'était pas féministe, elle militait pour la liberté, c'est différent. En revanche, la Révolution d'abord et l'Empire ensuite ont figé les genres masculins et féminins dans des rôles dont il a été très difficile de s'extirper. Bonaparte incarne la bravoure militaire et la sobriété vestimentaire qui ont défini le masculin pour les générations suivantes, écrasées par cette définition cadenassée de la virilité. Quant aux femmes, elles ont été cantonnées à la sphère domestique ou à la séduction mondaine. Au fond, bien plus misogynes que ne le fut Napoléon lui-même, sont ceux qui revendiquent aujourd'hui cette virilité napoléonienne immodérée.
Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais.
Une série réalisée par Violaine Ballet, assistance éditoriale Estelle Gap, documentation sonore Thierry Dupin, Romain Couturier, Hervé Evano, avec la participation de Nicolas Lormeau de la Comédie Française. Prochain épisode, au pied des pyramides, une campagne de propagande. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais, est un podcast original de France Inter.